OK. Nous sommes dans Genèse, je l'avais dit, on a lu dans Éphésiens, on a parlé, on a vu comment ce chapitre termine avec la plénitude du Saint-Esprit qui se manifeste dans le couple chrétien, dans la famille chrétienne. Et là, j'aimerais aller au tout début, dans l'histoire qui avait bien commencé, mais qui malheureusement s'est mal terminée. Mais heureusement, la grâce de Dieu était toujours là. On est dans Genèse 3. Je veux juste qu'on lise les deux versets 14 et 15. Parce que l'Éternel ici parle au serpent. Genèse 3, 14. L'Éternel, Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Encore entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Seigneur, on s'approche non seulement de ta parole, mais de toi maintenant, pour que tu nous enseignes, nous transformes, que ta grâce fasse ce travail extraordinaire qui est le seul travail qui compte ici-bas sur terre, la régénération de ceux qui ne te connaissent pas encore, l'illumination des cœurs de tes enfants, Seigneur. On est totalement en besoin de toi, Seigneur, ce matin. Merci que tu es au milieu de nous par ces chants, ces louanges, cette joie que tu mets dans nos cœurs. Ah, Seigneur, on désire que tu puisses multiplier ta grâce au milieu de nous. Fais ton œuvre de conviction, de travail pour illuminer les yeux du cœur de tes enfants et que, Seigneur, on soit tous émerveillés devant la croix, devant l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ. Merci que tu as triomphé de la mort, tu as triomphé de tous tes ennemis. Seigneur, on s'attend à toi. On regarde à toi. Merci que tu es vivant pour sauver quiconque s'approche de toi par la foi. Tu es vivant aussi pour agir au milieu de ton peuple d'une façon extraordinaire, Seigneur. C'est à ça qu'on s'attend. Parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, on a commencé la semaine dernière pour le mois d'août sur le thème que Dieu révèle, nous donne un esprit de révélation. On avait lu ça dans Éphésiens 1. C'est une prière de Paul. Et on avait commencé avec le fait que nous avons l'héritage de la vie, que Christ est la vie de tous ceux qui se confient en lui. On était morts dans nos offenses et nos péchés. Et par le salut en Jésus-Christ, on trouve la vraie vie. La vie qui est éternelle, la vie qui est la vie originale qu'on avait, avant la chute de l'homme, où est-ce qu'on vient juste de lire, juste brièvement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'héritage de la famille, que Dieu révèle quel est l'héritage de la famille. Vous savez que l'histoire rédemptrice a beaucoup à dire, à raconter sur la famille. Pourquoi? Parce que l'histoire de la rédemption, c'est une histoire familiale. Elle a commencé de toute éternité dans la famille divine, la Trinité. Puis ensuite, dès l'aube de l'humanité, comme on vient de le lire, elle prend racine dans cette première famille créée par Dieu, l'homme et la femme qui ont fondé la première famille. Et elle culmine cette histoire de la rédemption encore dans une famille où Jésus-Christ est né. Dieu fait homme, Dieu fait chair, dans une famille ordinaire du Moyen-Orient. Il y a 2000 ans. Et ce qu'on vient de lire ici dans Genèse, spécialement au verset 15, c'est la révélation du plan rédempteur. Ici, les théologiens appellent ce verset qu'on a lu au verset 15, hein, où est-ce que Dieu parle au serpent, à Satan, en disant qu'il allait mettre l'inimitié entre lui et la femme, entre sa postérité puis celle de la femme, puis cette postérité allait écraser la tête du serpent, mais le serpent allait lui blesser le talon. Les théologiens appellent ça le proto-évangile. C'est dès la chute, la promesse de la rédemption. Et j'aimerais vous expliquer ici que quand on parle de postérité, il y a quelque chose d'inhabituel ici. Il parle à la femme et habituellement, quand on parle de postérité, dans les Écritures, c'est relié aux hommes, aux patriarches. On parle de, par exemple, la postérité d'Abraham. On parle de la descendance d'Adam. OK? C'est souvent, c'est relié à l'homme. Et ça, ça souligne d'emblée le caractère surnaturel de ce qui était promis ici. C'était pas selon ce qui était normal. C'était quelque chose qui allait être extraordinaire, hors de l'ordinaire, plein de grâce. En fait, on voit que le Dieu rédempteur, dès la chute, au moment où est-ce que le péché est rentré dans le monde, est intervenu pour restaurer ce qui a été perdu et déjà promettait contre toute attente, parce qu'il y avait une rébellion contre son autorité, contre sa personne, qui il est. Dieu promettait la restauration, et c'était la restauration de l'adoration relationnelle qui était en train de promettre ici dans le contexte de la famille. Ce qui est promis ici, c'est accompli pleinement en Jésus-Christ. Mais déjà, Dieu a utilisé cette institution qu'est la famille comme un lieu de restauration rédemptrice dans les relations interpersonnelles. Je veux vous montrer ça avec le premier des patriarches, M. Abraham. Venez avec moi dans Genèse 18. Je veux juste vous montrer quelques versets ici sur ce que Dieu dit à Abraham. Donc, là, on a avancé dans le temps, mais on est toujours avec cette lignée, cette postérité de la femme, la lignée messianique. Abraham, qui a été désigné par Dieu dans ce plan rédempteur. Mais regardez ce que ça dit sur sa famille. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Ça, ça nous pointe à Christ. C'est à cause de Christ que toutes les nations sont bénies comme ça. Puis regardez ce que ça dit au verset 19. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Toutes ces promesses-là sont pointées vers Christ, le Rédempteur, dont Abraham était l'un des descendants. On voit déjà comment Dieu préparait des adorateurs, qui allaient l'adorer en esprit, en vérité. Dans ce monde qui déjà, Genèse 18, il y a déjà eu le déluge, où est-ce que Dieu donne des diagnostics sur l'humanité que le cœur de l'homme était constamment tourné vers le mal. Dieu est en train de faire une œuvre de délivrance et ça commençait comme ça à s'opérer, et ça l'a culminé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour ça que je crois ici, et c'est l'enfance de mon message, on ne devrait jamais négliger, mépriser l'importance capitale, centrale et rédemptrice de la famille chrétienne, de la famille basée sur Jésus-Christ, la famille basée sur le roc. N'est-ce pas que Jésus a dit que ceux qui entendent ces paroles, en fait, je vais vous le lire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Vous savez, une famille chrétienne a cette bénédiction immense. Et rejeter cela, c'est rejeter le Dieu qui a instauré la famille. Ainsi, être né dans une famille chrétienne, c'est le plus grand privilège qu'il puisse y avoir dans l'histoire de l'humanité. Amen. Savez-vous ça? Amen. Être né dans une famille chrétienne, c'est être né dans une famille où est-ce que la lumière de Dieu, de l'Évangile, de Christ est proclamée. Pourquoi? Parce que ça nous inclut dans ce plan rédempteur. Vous savez que même ceux qui ne sont pas sauvés sont bénis du fait d'être avec des sauvés. C'est ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, où est-ce qu'elle dit « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, mais la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints, mis à part. » Ce n'est pas qu'ils sont sauvés automatiquement en étant dans une famille chrétienne, mais ils sont dans un lieu unique, mis à part par Dieu. Amen. Une famille où est-ce que sa vérité est proclamée. Et dans l'histoire de la rédemption, le fil d'or qui s'en va à travers comme ça l'histoire de l'homme, c'est la famille chrétienne. Amen. La lumière d'espoir dans un récit tellement ténébreux. Vous savez, si on regarde l'histoire, ceux qui aiment l'histoire, j'aime l'histoire, c'est pas flatteur, c'est pas beau. L'histoire de l'homme, là, ouf! Des guerres, des divisions, des ci, des ça. Oh, il y en a tout et ça.
Le péché.
Et c'est ça, les ravages du péché, mais la grâce de Dieu se voit à travers cette histoire rédemptrice, à travers les familles que Dieu a fait succéder une après l'autre. Et maintenant, pensez-y, et c'est la dernière chose que je veux dire en introduction. Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, ou que vous en êtes le leader, Dieu vous a littéralement incorporé, rendu partie prenante de son plan rédempteur bienveillant, qui s'est toujours accompli à travers l'instrumentalité de la famille. C'est son instrument de rédemption. C'est pas, et comprenez, c'est Christ le rédempteur, mais la famille, c'est ce que j'aimerais qu'on voit, un rôle rédempteur unique. C'est ce que j'aimerais qu'on regarde simplement avec trois rôles rédempteurs de la famille chrétienne. D'abord, ici dans Genèse, le verset qu'on a lu, spécialement verset 19, on voit que c'est un lieu d'héritage spirituel, la famille chrétienne. Ça nous dit ici au verset 19, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Il y avait un héritage spirituel, des promesses que Dieu a faites qui allaient comme ça se succéder à travers la famille. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la famille, c'est l'endroit unique pour expérimenter et grandir dans la sainteté de Dieu, où les membres sont mis à part pour un usage spécial, divin, hors de ce monde, éternel. C'est pour ça que je dis que c'est le plus grand privilège. Il y a quelque chose d'unique qui n'a nulle part ailleurs dans ce monde. L'idée de sainteté, c'est à part, un usage qui n'est que pour Dieu, pour lui. Et quand, lorsqu'on comprend ça, on comprend que la famille chrétienne, c'est le plus grand héritage spirituel dont une personne puisse bénéficier dans le plan rédempteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est faire partie de l'alliance de sa grâce, de ses desseins éternels. Mais l'autre côté de ça, c'est lorsqu'on comprend ça et qu'on ne fait pas un cas de cet héritage spirituel, c'est horrible, mes amis. Au mieux, c'est arrogant, par ignorance, au pire, par incrédulité et par orgueil. Mes amis, c'est là toute la différence, le contraste entre Jacob et Ésaü. Ésaü qui a méprisé l'héritage spirituel qu'il avait. Et ainsi, il a méprisé Christ lui-même. Parce que vous voyez pas juste, c'était juste un plat de lentilles. Non, non, c'était toute la bénédiction, c'était tout l'héritage spirituel. C'est ça qu'il a mis de côté, c'est Christ et sa promesse. Et le plus triste là-dedans, c'est qu'il n'a pas pu retourner en arrière. Écoutez ce que ça nous dit à ce sujet-là dans Hébreux chapitre 12. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. » Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Remarquez ici la place destructrice de l'amertume. L'amertume dans la déchéance familiale. Oui, il y a cette limite messianique, mais on voit côte à côte la destruction par tellement de familles. Tu sais, des familles idéales là, dans la Bible, il n'y en a pas bien. On voit que c'est vraiment tout par la grâce de Dieu. Mais cette amertume, c'est l'alternative de la chair face aux nombreuses blessures que nous vivons dans une famille. Chaque famille ici, c'est malheureux à dire, mais on se fait mal, on se blesse dans le profond de notre cœur. C'est la réalité familiale, c'est la réalité du péché. Et l'amertume, c'est l'alternative de notre chair, c'est la réponse naturelle lorsque nous n'allons pas à celui qui est le baume de Gilead pour être guéri. Parce que oui, on a des blessures, oui, on est dans un monde où est-ce qu'on se fait mal, mais Dieu, un de ses noms qu'il nous donne pour s'identifier, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel guéri. Amen. Je suis celui qui guérit. Et tant que nos blessures n'ont pas été guéries par la grâce surnaturelle de Dieu, on est pris avec, puis ils nous détruisent, puis ils nous gardent du Dieu de toute grâce. Et peut-être que c'est ce qui est en vous, puis l'héritage que Dieu a pour vous aujourd'hui. Ces blessures qui font mal, qui font énormément mal, qui sont insupportables. C'est Dieu qui vous appelle à lui, qui vous appelle à guérir ces blessures. Tant que vous restez avec, vous allez juste aller de mal en pire. Et oui, vous les avez eues. Vous avez raison d'avoir mal. Oui, il y a de l'injustice. Oui, il y a des affaires qui sont inexcusables. Mais que ça ne vous empêche pas d'aller à celui qui guérit. Tournez avec moi dans Ruth maintenant. Ruth. Au chapitre 4. J'aimerais qu'on commence au verset 13. J'ai un sens dans lequel ce matin, on est vraiment sur une terre spécialement sainte. Parce que la famille, c'est quelque chose de tellement spécial. Dieu a fondé un couple, qui a fondé une famille, qui a été la base de son plan rédempteur. Puis comme on va voir à la fin du message, Satan, il veut vraiment détruire spécialement la famille. Donc oui, c'est un lieu d'héritage spirituel. C'est la première chose que je voulais qu'on regarde, le rôle. C'est un lieu d'héritage spirituel. Mais regardez aussi, avec l'histoire de Ruth, qui est une histoire merveilleuse de rédemption, la famille est aussi un lieu de rédemption spirituelle. Regardez dans Ruth, à partir du verset 13, « Boaz prit Ruth et qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. » Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté et elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut à sa garde. On ne va pas rentrer dans tous les détails de l'histoire de Ruth. J'espère que vous êtes quand même assez familiers. Mais cette histoire, ces faits historiques merveilleux, illustre le fait que la famille chrétienne croyante, c'est le lieu de rédemption où les délaissés, les malmenés trouvent un lien d'appartenance, leur identité. La famille chrétienne et l'Église, en passant aussi, ont le même rôle. Ou est-ce que ceux... C'est l'histoire de Ruth, c'est une personne qui n'avait pas d'avenir. C'est la pire situation pour une femme. En plus, déjà être une femme dans la société de l'époque, c'était vraiment difficile. En plus d'être veuve, elle était complètement sans espoir, avec une belle-mère qui était elle aussi dans cette situation-là. Je veux dire, c'est la plus désespérée des situations, mais cette histoire nous montre comment Dieu prend du monde de même. Puis Ruth... avec, c'est pour ça qu'on lit ici à la fin du livre, elle fait partie de la lignée de Jésus. Quelle célébration, comment ça magnifie la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc, la famille, c'est un lieu, et la famille de l'Église locale comme la nôtre, c'est la nouvelle famille, où est-ce qu'on trouve notre appartenance, notre identité, l'espoir pour un avenir meilleur. Je vous rappelle que Ruth est à l'époque des juges. Ça allait mal dans l'époque des juges. Ça allait de mal en pire. Ruth est un vent de fraîcheur dans cette époque. Où est-ce qu'on voit vraiment cette rédemption inlassable? Dieu qui était toujours fidèle à ses promesses. La famille chrétienne, mes amis, c'est un lieu de façon unique, merveilleuse, où la liberté du salut en Jésus-Christ est expérimentée et reproduite. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ça nous dit par la suite, je ne me rappelle plus après, le salut de quiconque croit, selon qu'il est écrit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par la foi et pour la foi. On est sauvé par la foi, mais aussi on est sauvé pour propager cette foi, pour que cette foi vive, amen, grandisse. C'est une foi vivante, c'est une semence qui porte du fruit. Amen. La foi de l'Évangile. Autrement dit, la famille chrétienne est un endroit où la vie de Jésus naît, prend racine et grandit à la gloire de Dieu et à sa louange. Un lieu où la foi, la confiance en Jésus-Christ est la chose la plus précieuse. Écoutez ce que ça dit dans Jude. « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. L'héritage merveilleux de la foi en Christ. » Et aussi, c'est une foi qui triomphe, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ouais. C'est ça la rédemption qu'on a avec l'Évangile. Et une famille chrétienne est un lieu unique où est-ce que cette rédemption divine est expérimentée. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur un couple chrétien qui est l'image même de Christ et de l'Église. On a lu ça dans Éphésiens 5. Et tout ça illustre la victoire de la puissance de la vie. Mm-hmm. Et ça vit physiquement, OK, parce qu'un couple a des enfants. Hein, la malédiction de la mort est venue par le péché, mais une famille produit la vie. Ça, c'est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel aussi, la mort non seulement est dans le domaine physique où est-ce que tout le monde en meurt, mais cette mort dans nos offenses et nos péchés, lorsqu'une famille a la foi qui est vivante, cette foi, cette vie de Christ grandit, se reproduit, et il y a quelque chose de vraiment unique à ça dans une famille chrétienne. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important. Parce que je sais qu'il y en a ici qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire « Oh, mon couple, ma famille est en ruine. » Si loin de l'idéal divin dont on parle depuis le début. Est-ce que je me trompe? Certes, mais croyez pas que c'est la fin de l'histoire.
Amen.
Croyez pas que c'est la fin de l'histoire. Écoutez ce que ça nous dit dans 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 13. Ça nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce de Dieu qui vous sera apporté lorsque Jésus apparaîtra.
Amen.
Une entière espérance, une attente complète, entière, indéfectible. Mais vous avez le choix ce matin. Vous avez le choix pour votre vie. Vous pouvez être amer. Vous pouvez être amer les uns vers les autres. Vous pouvez vous flageller à coups de remords, de honte, par rapport à vous-même, par rapport aux autres. C'est la réalité. Où vous pouvez aller à celui qui est la fin des remords, de la honte, qui a pris votre honte, qui a pris vos péchés, ce qui vous fait tellement mal. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Pourquoi laisser de côté celui qui a tout accompli comme ça? Vous le connaissez, vous le connaissez peut-être pas personnellement, comme votre sauveur, mais vous avez entendu parler assez de lui pour savoir qu'il est la réponse.
Amen.
Tournez-vous vers lui, vers celui qui change le mal en bien, vers celui qui est capable, par la puissance qui agit en nous, de faire au-delà de tout ce que nous demandons, même nous pensons. Amen. Mes amis, ça c'est votre acte d'adoration. Et c'est ça qui va déterminer la suite des choses pour votre vie. Ah, un verset que j'aime beaucoup et j'ai entendu un bon message là-dessus dernièrement, en psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Et ça continue en parlant des idoles. Ils ont des mains, ils ne touchent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Et qu'est-ce que ça dit? Ils leur ressemblent.
Amen.
Ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Mes amis, votre réponse à ce que vous vivez dans le contexte familial, c'est votre adoration à Dieu.
Amen.
Et c'est à ça que vous allez ressembler. Si vous empêtrez dans l'amertume puis dans les raisons, et vous avez mille et une raisons légitimes d'être amer. C'est ça le problème avec l'amertume. On peut se justifier et dire, ben oui, j'ai raison. Mais si ça vous empêche d'aller à celui qui délivre, vous êtes les plus misérables des hommes, des femmes. Ah, mes amis, allez à celui qui est la victoire sur ces choses, celui qui libère. Et savez que le Saint-Esprit appelle, le Saint-Esprit convainc. Et pourquoi résister à l'appel de la grâce de Dieu? Et pour les enfants de Dieu, Christ, formez en vous toutes ces choses qui arrivent dans votre vie, ça a un but, pas votre but. On n'est pas dans l'évangile de prospérité. Ah oui, moi j'ai plein de buts dans la vie. Je veux être riche, je veux être beau, puis je veux tout avoir. Non, le but de Dieu, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'appellent selon son dessein. Puis son dessein peut comprendre pas mal de choses que nous, on n'aurait pas voulu. Savez-vous quoi? Son dessein comprenait 2020-2021. J'aurais pas choisi ça, mais je loue le Seigneur, je rends gloire à Dieu parce que ça donne ce qu'on voit ce matin.
Amen.
Dieu nous a libérés de nous-mêmes. On était morts, on était en train de plus en plus de s'enfoncer là-dedans. Mm-hmm. Puis Dieu a insufflé la vie, mes amis. Ça, ça n'a pas de prix, puis moi, je veux pas retenir en arrière. Aucunement, au contraire, je veux avancer encore plus vers le prix, vers l'avant. Donc, c'est ça, la famille, un lieu de rédemption spirituelle. Et finalement, la famille est un lieu de conquête spirituelle. 2 Corinthiens, chapitre 2. Un lieu de conquête spirituelle. Comprenez-vous qu'en tant que chrétien, je veux dire, un chrétien défaitiste, un chrétien qui se promène la tête basse, un chrétien qui ne comprend pas ce qu'il est. Il ne comprend pas ce que Dieu est. Il ne comprend pas ce que Dieu a fait. Il faut comprendre que Dieu nous ouvre les yeux sur ce que nous sommes, ce que nous avons en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » La famille est un lieu de conquête spirituelle, de triomphe. Et il y a un sens très particulier et puissant ici à ce qu'on vient de lire par rapport à la famille chrétienne. Pas parce que la famille chrétienne est parfaite. Il n'y a aucune famille chrétienne parfaite. Au contraire, une famille chrétienne se rend compte à quel point qu'elle ne l'est pas. Parce que la lumière de la parole qui monte. Vous savez, une famille qui ne connaît pas la parole peut bien se faire à croire que tout est beau, tout va bien. Mais une famille chrétienne se fait mettre le spotlight. Et là, on se rend compte, wow! Pour ça, essayez pas de jouer des games. Il n'y en a pas de famille parfaite. Puis, gloire à Dieu, il nous délivre de cette hypocrisie de faire semblant que tout est beau. Ça n'existe pas, ça. On n'est pas dans le royaume de Walt Disney ici. Là.
Pas vraiment.
Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Non, dans toute son imperfection, c'est vraiment dans toute son imperfection que la famille chrétienne est utilisée par Dieu pour illustrer justement sa rédemption. Une famille tout croche dans laquelle Dieu fait des choses glorieuses. Alors, regardez les familles dans la Bible. Tu sais, on parlait des patriarches, là. C'est pas trop beau, là. Surtout quand on arrive avec la famille de Jacob, là. Jalousie, puis là, des affaires, puis Ésaü, puis... Mon ami, c'est une famille très dysfonctionnelle, là. La DPJ serait débarquée là, là. Sérieusement. Mais c'est... Non, mais c'est vrai. Je veux pas vraiment faire une joke avec ça. Ça marchait pas bien, là. Puis, tu sais, les 12, là, avec toutes les... Oh, mon ami. Mais ça montre comment Dieu, justement, est glorieux. Comment Dieu est plus grand que ça.
Amen.
Comment là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça, la famille chrétienne. C'est pas une famille qui a pas de péché. C'est une famille qui connaît celui qui fait grâce.
Amen.
Celui qui a une grâce qui surmonte. L'idée, c'est qu'il y a un gros tas de péchés comme ça, puis la grâce arrive comme un fleuve, puis ça l'inonde, ça va par-dessus, puis ça wipe away complètement. Écoutez, je vais vous lire un beau verset par rapport à ça. Encore, c'est dans 2 Corinthiens. Tiens, on va le lire ensemble. On est ici dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Regardez verset 6. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. That's the whole point. C'est ça toute l'idée, là. Si la famille chrétienne était toute speak and span, puis il l'aurait donc. Quel piège on est tombé de vouloir faire la petite famille parfaite. On a offensé Dieu en faisant ça, mes amis. C'est pas qu'on veut faire la famille tout croche. C'est qu'on veut faire confiance à Dieu, tout croche que nous sommes. C'est ça l'idée. C'est pas par rapport à nous. Non pas à nous, non pas à nous, Seigneur. À toi donne la gloire. Et Dieu est glorifié dans sa délivrance, dans la liberté qu'il donne, la vraie. Plus encore, la famille chrétienne est le moyen que Dieu a désigné pour conquérir pour son royaume ici sur terre. Savez-vous ça? Parce que c'est à travers la famille que la lignée messianique a avancé. Et c'est dans la famille que, comme une famille, comme on a ici plusieurs familles représentées, que le Rédempteur est né. Puis c'est encore dans la famille que le plan Rédempteur se poursuit. Maintenant, je veux juste ajouter quelque chose de très important. C'est pas à dire que si vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas d'enfant, que vous êtes une sous-catégorie. Oh, pas du tout. Vous êtes des alliés d'honneur. Regardez, Jésus, il s'est entouré de personnes tout croches, des personnes sûrement... Non, mais c'est vrai! Des personnes que leur vie était souvent démantibulée. Puis ils ont fait partie glorieusement de ça. Pierre avait une famille, à ce qu'on comprenne, mais c'était pas... Je veux dire... Il y en a d'autres qui étaient tout seuls. Il y en a qui étaient prostitués. Il y en a probablement un qui était divorcé, qui était mis au bas de la société parce que c'était très, très, très honteux à l'époque. Jésus les a pas mis dehors. Et c'est ce qu'on vit ici. On est une famille spirituelle. Donc, famille, on le comprend au niveau biologique, mais aussi au niveau spirituel. En plus de ça, on voit l'importance fondamentale de la famille dans notre société parce que elle est l'objet d'attaques acharnées et inlassables. Si ce n'était pas important, Satan s'en ficherait et s'en occuperait pas. Mais on voit comment elle est importante avec cette haine meurtrière contre cette institution divine, rédemptrice, depuis Genèse au chapitre 3. Depuis la chute, Satan s'est attaqué à cette institution divine. On le voit par des attaques sans précédent. Écoutez, même c'est un signe. Dans les derniers temps, Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tout dans notre société, dans le monde, attaque tous les aspects de la famille. Et je dirais spécialement depuis les dernières 80 années, là, il y a eu les deux guerres mondiales. Ça a mis à terre la majorité des pères, la paternité en tant que telle. Savez-vous ça? Méchant coup, ça, sur les hommes. L'émancipation de la femme, qui est devenue l'esclave, un esclavage, se faisant promettre la liberté, sont devenus juste esclaves. La culture du rock'n'roll, ça a été la destruction des enfants. LGBTQ, là, il y a une nouvelle façon à se dire, LGBT, là, OK? Ça l'attaque le caractère même de Dieu qui est porté par les êtres humains. C'est une attaque à Dieu. On est fait à l'image de Dieu. L'humanisme, le matérialisme, la technologie, le rôle des hommes, des femmes, des parents, des enfants, comment c'est dépeint par la télévision, les médias, tout ça, c'est une attaque concertée contre cette institution glorieuse qu'est la famille. Wow! En bref, Satan fait tout en son pouvoir pour empêcher, pour freiner la restauration de l'adoration relationnelle par l'instrumentalité de la famille. Dieu cherche des adorateurs qui l'aient là en esprit, en vérité. Satan s'attaque précisément à ça. J'espère qu'on comprend mieux le rôle rédempteur de la famille chrétienne ce matin. Son importance centrale dans le plan de Dieu, plus que ça, que tous ici, on est convaincus que le fait de négliger, de mépriser l'importance capitale et rédemptrice de la famille chrétienne, c'est rejeter celui qui l'a institué. C'est grave, c'est ça ce qu'on dit, ce qu'on voit ce matin. Parce qu'en choisissant votre propre voie, en négligeant la famille que Dieu vous a donnée, aussi imparfaite et aussi misérable puisse-t-elle être, vous choisissez la voie de Caïn, la voie de votre propre adoration, à votre façon. Et ça, c'est la voie de la destruction. Et c'est l'orgueil, l'incrédulité de votre « oui, mais ». C'est ce que... C'est comme ça quand même. « Oui, mais » et 200 000 excuses pour l'amertume. Rappelez-vous, on ne devrait jamais te mettre un « oui, mais » là où Dieu dit « mais Dieu ».
Amen.
La grâce de Dieu, c'est « mais Dieu ». Est-ce qu'on le croit? C'est ça la rédemption, c'est « mais Dieu ». Prends du monde complètement tombé, qui ont tellement tout viré de travers, « mais Dieu ». Prouve son amour, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu n'est pas mort pour les bonnes personnes. Il est mort pour des criminels, des gens qui le rejettent, qui ne voulaient rien savoir de lui. Il prouve son amour comme ça. Amen. Une application ici pour les pères. Avez-vous la bonne vision de votre famille? Avez-vous la bonne vision de vous-même? Un self-made man, avez-vous déjà entendu l'expression? Un gars qui sait, tu sais. Un gars qui s'arrange tout seul. Hanging there by his own bootstraps. Qui se tient par ses pops. J'ai pas trouvé l'expression française pour ça, mais bon. C'est quoi, c'est pas le plan de Dieu, ça? Pas en tout. Pas en tout. Une femme de carrière autosuffisante. Oh, je suis pas politically correct. Mais mes amis, c'est pas le plan de Dieu.
Amen.
Élever des enfants pour qu'ils aient une bonne job, une carrière. Mes amis, ça, si c'est une fin en tant que telle, c'est juste pas assez. C'est pas assez glorieux. Si c'est pas porteur de la vie de Christ, c'est du néant, ça mène à rien. C'est pas que la chose est mauvaise en tant que telle, c'est le but, la finalité. Si on arrête là, puis on met le bric à bras sur la carrière, sur l'accomplissement qu'on cherche là-dedans, on manque Dieu. Dieu peut servir de personnes qui vont faire des choses de même, mais c'est pas le but de la vie, mes amis. Pire encore, aux yeux de Dieu, lorsque ces choses sont une fin en tant que telle, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que c'est l'alternative à son plan rédempteur. C'est vouloir nous-mêmes nous en sortir, c'est l'auto-rédemption. Et n'oubliez pas comment Satan est le maître de la contrefaçon. Comment il veut tout le temps offrir une alternative. Donc, mon appel ce matin, si vous êtes ici et vous n'avez pas cette vie, je ne parle pas d'avoir répété une prière, je ne parle pas d'une religion. La vie. Être passé de la mort à la vie. Avoir changé de royaume. De Satan à celui de Dieu. Si c'est vous ce matin, contentez-vous pas de la contrefaçon. Vous êtes offert le vrai.
Amen.
Christ est le vrai sauveur. En lui est la vraie vie.
Amen encore.
Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous voyez que vous n'avez pas la vie, tournez-vous vers celui qui est la vie, puis qui la donne.
Amen.
Reconnaissez que vous n'avez rien et que lui a tout. Et qu'il est celui, le seul, qui peut faire toutes choses nouvelles. Celui qui, lorsqu'on est en lui, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mes amis chrétiens, ici, ceux qui avaient la vie par la grâce de Dieu, prions de ne jamais être contents, être satisfaits hors de la vie que Christ est venu donner pour qu'on l'ait en abondance.
Amen.
Qu'on ne se contente pas de juste subsister lorsqu'on a un Dieu plein de grâce, un Dieu qui pleinement déverse sur nous toutes ses bontés. Oh, que Dieu nous visite. Seigneur, on te remercie de ta patience, de ta grâce. Seigneur, on a considéré un sujet tellement sobre. La famille. C'est vrai, on a tous ici des familles qui, à quelque part, marche pas. On s'est blessé. On s'est fait du mal, on a fait du mal. Dans le plus profond de nos cœurs, les personnes qu'on aime le plus, c'est celles-là qu'on a le plus profondément blessées. Seigneur, on vient à toi ce matin, le baume de Gilead. Toi qui penses les plaies les plus profondes. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que s'il y en a qui sont pris dans un fiel amer, qui à cause de ça ne se tournent pas vers Christ qui est la vie, qui est le pardon, qui est la restauration. Seigneur, je veux plaider pour ces personnes ce matin. Je prie que tu leur donnes la délivrance. Je prie que tu les visites, Seigneur. Qu'ils se tournent simplement vers toi, reconnaissant que tu es encore les bras ouverts ce matin. Seigneur, c'est dans toi qu'est la vie. C'est toi, Seigneur, qui est la seule réponse. Dans ce monde, il n'y a rien. En nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Seigneur, je te prie que tu aies pitié. Tu vois, Seigneur, l'état des camps. Tu vois l'état des familles. Tu vois aussi les personnes qui se sentent seules. Seigneur, tu nous as donné ici une famille spirituelle extraordinaire. Je veux te louer, Seigneur, tout ce que tu fais par ta grâce. Tout ça, c'est vraiment à cause que tu es bon, Seigneur. Je veux te remercier. Oh, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, on veut le fruit de ta vie dans cette église. On le veut dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. On s'attend à toi. Agis. Glorifie ton nom, Seigneur. Délivre, sauve. Comme juste toi peux le faire. On te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à votre tour si vous voulez prier.